de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 29 avril 94.
Alors c'est là où cause universelle. Et il n'y a quand même pas, moi je dis un abîme, parce que dans la maison, à la maison, on est dans un milieu symbolique, et c'est une petite maison. Tout porte sur le point du symbolique. Le père et la mère sont connus d'abord d'une façon symbolique. On connaît l'homme symboliquement par le père. Puis on connaît l'homme. Oui. On connaît symboliquement le bison. Puis on connaît l'animal. C'est là où on dit on connaît le bison. Mais Dieu, c'est non, l'animal. On ne connaît pas l'espèce universelle en premier lieu. Ça, on va voir ça. Parce que c'est la question, hein, qui est reprise ici. N'est-ce pas la raison pour laquelle le secret se manifeste de préférence dans un langage symbolique? Ainsi, le Christ parle en parabole pour nous faire entrer dans le mystère du royaume des cieux. Je crois que le langage symbolique est très premier. Il est ultime. Je crois. Ultime dans le Christ. Le Christ est le maître de la parole, puisqu'il est le Logos. Et la parole n'a jamais atteint un sommet aussi grand que dans la parole de Jésus. Disant Père, ça c'est le sommet de la parole. Et disant Mère, Maman, Papa, puisque Abba c'est Papa. C'est très curieux, il y a quelque chose d'important à saisir et à bien comprendre. Alors dans le langage symbolique disait moderne, il y a toujours le corps. C'est pour ça qu'ils disent que le langage symbolique est lié au corps. C'est vrai. Moi je dirais que le langage symbolique est lié au toucher. Plus qu'au corps. Le corps, c'est le sens du volume. Je ne crois pas que le volume soit premier par rapport au symbole. Je crois que c'est le symbole qui est premier. C'est le toucher. Or, est-ce que le toucher du corps est premier ou est-ce que le toucher de l'autre est premier? Quand l'enfant est emmailloté, c'est le toucher de l'autre qui est premier. À propos de l'éclosion de l'intelligence par l'universel dans l'enfant, ne disons pas ça, ne disons pas à propos de l'éclosion de l'intelligence par l'universel. L'universel n'est pas une voie d'accès à la connaissance. Attention. Alors on dit par, comme s'il fallait passer par l'universel. Non, non. L'universel est connu bien tardivement. La logique n'est pas première. Même en France, avec Descartes. La fécondité de Descartes, la génération de Descartes avant celle de Mitterrand, c'est une génération qui ne porte pas en premier lieu sur l'universel. On connaît d'abord maman, papa. Et de là, on universalise. Et on universalise d'abord sans universaliser, en projetant. Tous les hommes, c'est papa. J'ai trouvé quelque chose de très curieux, c'était dans TGV l'autre jour. On arrivait tout près de Paris. Il y avait une petite fille, très éveillée, très très éveillée, qui était juste devant moi, qui faisait du chahut, parce qu'elle était juste devant moi. Et comme c'était très amusant ce qu'elle racontait, c'est très amusant. Il y avait un grand frère qui l'excitait pas mal. C'est un petit dialogue amusant. Et alors, le grand frère dit à la porte, on a ce mari, papa va être là. Alors la petite fille regarde par la fenêtre, elle croit que papa était là, sur le quai. Elle dit, ah, oui, c'est la même moto que papa. Donc papa, c'est papa. Oui, alors, il y avait un homme, et puis il y avait la moto. Alors, c'est par la moto qu'elle a distingué son père. C'est amusant. Aristote n'aurait pas dit ça. La première distinction entre papa et le chat, ça prouve que quelque chose de commun a été saisi avant. Autrement, on n'a pas besoin de distinguer. Oui, autrement dit, il faut discerner, et c'est là la grosse difficulté, au point de vue critique, hein, surtout au point de vue génétique. Ce qui montre hein, que une philosophie qui se construit sur l'aspect génétique reste dans l'ordre de l'opinion. Parce que je crois qu'on pourra discuter sans s'étendre. Qu'est-ce qui est premier ? Miné. Miné. Papa. Miné, papa, c'est des singuliers. Puis il passe de là. N'est-ce pas ? Papa n'est pas miné. Miné n'est pas papa. Donc c'est d'abord les singuliers. Ça c'est sûr. Génétiquement c'est le singulier. Alors dire que Miné est un chat, ça ne va pas. Ça met du temps avant de dire ça, vous savez. Vous vous dites ça tout de suite. Mais ça met du temps. Il y a d'abord papa. Bien vrai, on mettra Arthur qui apparaît. Parce que papa, c'est pas Arthur. C'est pas Jacques. Donc il y a papa et les autres hommes. Et puis il y a papa et le chat. Miné. Mais alors, c'est pas commode à voir le passage du singulier à l'universel. Au fond, là, l'aspect génétique, ça n'a aucun intérêt. Hein. La psychologie se base sur le génétique, mais c'est un peu pour ça qu'elle se base sur l'opinion. La distinction des âges est différente pour chacun. C'est différent pour les cultures. Et vous croyez que ça a une répercussion quand l'homme est arrivé à un âge où il peut réfléchir sur l'universel? Je crois pas du tout. Est-ce que pour vous, vous êtes passé de miné à animal et vous avez battu le petit camarade d'à côté qui a dit miné d'un chat? Mais je crois que génétiquement, on ne peut jamais avoir de certitude. On dit des à peu près. Ce qui est normal. Parce que la foi pour chacun d'entre nous est distincte. Ça dépend du milieu dans lequel on est. Si on était avec des personnes qui l'ont atteint, comme disait une fois une lecture, c'était pas ici, c'était au seul joueur chez les gars. Il a atteint une foi. On parlait d'un homme respectable et respecté. Il a atteint une foi dans sa vie universelle. C'est un compliment que vous faites. Je crois que l'auteur du livre ne savait pas très bien ce que c'était que l'universel. Parce qu'il ne l'avait jamais atteint. Alors il est bêté. L'universel, l'être de raison. Demandez autour de vous ici. Le petit camarade du coin, c'est ce que c'est que l'universel? Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. L'être de raison. Qu'est-ce qu'il y a entre? Qu'est-ce qui comprend ce que c'est que l'être de raison aujourd'hui? Difficilement. Oh, je ne sais pas ce que c'est que l'universel tant que je ne sais pas ce que c'est que l'être de raison. Oui, donc, génétiquement, ça dépend des milieux dans lesquels on est. Énormément. Et ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. De sorte qu'on ne peut faire la philosophie que celui qui est arrivé à un âge déjà très avancé, qui connaît ce que c'est que l'être de raison. Comme la connaissance d'un principe. À quel moment avez-vous connu un principe? Vous n'en savez rien. Si vous l'avez atteint maintenant. Mais c'est très difficile, point de vue génétique. Mais ce que nous pouvons faire, une certaine connaissance, on peut reconstruire un ordre génétique. C'est ce qu'on devrait dire. On reconstruit un ordre génétique. C'est la philosophie de l'artiste, c'est la philosophie de l'architecte. On reconstruit. Et le psychologue devrait dire on reconstruit. Donc, c'est artificiel. Alors, qu'on essaie qu'il y ait une grande base naturelle, tant mieux. Le plus naturel possible. Mais c'est toujours un peu de reconstruction. Et je crois que ça, très important de comprendre ça. Parce que je ne construis pas ma vision de l'intelligence sur le point de vue génétique. Je peux signaler le moment où l'intelligence est présente, quand il y a le passage de la représentation à la signification. Voilà. Cette signification est-elle symbolique, je crois, au point de départ ? Est-elle au-delà de la connaissance symbolique, une connaissance déjà un peu scientifique, c'est possible. Est-elle affective? Ou la connaissance affective est-elle la première? Est-ce que c'est la connaissance affective qui est première? Est-ce que c'est la connaissance artistique? Je dirais ça dépend des milieux. Un petit gosse dont sa mère s'occupe très peu de lui. Et il a un professeur qui s'occupe énormément de lui. Et son premier amour, c'est son professeur. Alors, c'est une connaissance symbolique. Ça, je crois. Un petit gosse dont la mère est très affective, très aimante, connaissance affective. Je crois. C'est pour ça que c'est très difficile. Hein. Je ne peux pas construire une philosophie sur le premier génétique. Parce que je le sais pas. Je peux construire une construction, une reconstruction très belle, très intéressante, mais artificielle. Ce n'est pas philosophique. Je fais la philosophie à partir de ma connaissance actuelle. Et j'essaie de reconstruire cette connaissance, vous voyez, en philosophie du vivant. C'est-à-dire, je la reconstruirai que dans une anthropologie, pour une pédagogie. Mais la pédagogie n'est pas la philosophie, c'est un art. Donc, elle implique une certaine construction sur la matière que j'ai. Je ne peux pas faire une philosophie à partir d'une pédagogie, tandis que toute pédagogie présuppose une philosophie. C'est très différent. Et la psychologie est incapable de donner une psychologie. Incapable. On peut pas. Puisque pour donner une vraie pédagogie, il faut que le pédagogue sache la finalité vers laquelle il tend. Autrement, il prend un biais sans savoir où il va. C'était tout à fait Freud, il savait pas où il allait. Parce qu'il était honnête. En face de ses malades, il savait absolument pas où il allait. Il a accepté ça. Il faut accepter la nuit, au point de départ. Donc, continuons. L'éveil de l'intelligence. Ça, je crois que c'est quand même très, très important. Et je disais que le premier éveil de l'intelligence, pour moi, c'est plus le sourire que la parole. Parce que la parole, quand on est dans un milieu cultivé, on répète. Et la répétition n'est pas l'éveil de l'intelligence. Tandis que le sourire, on ne répète pas. Je ne crois pas. Le sourire de la mère, on ne peut pas le répéter. Vous ne pouvez pas répéter le sourire de quelqu'un. Vous pouvez répéter la parole. Pourquoi ? Parce que le sourire est extrêmement singulier. Il est symbolique. Tandis qu'au contraire, la parole est universelle. Donc elle se répète. faire le signe de croix sur lui et de considérer que ce qu'il dit est pour montrer ce qu'est un dialogue s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il y a quelqu'un qui nous voit. Vous voyez ? Et c'est là où le symbole va se développer. C'est pour ça que, contrairement à tout ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est le point de vue de la prière qui va éveiller en premier lieu l'intelligence de l'enfant. Ensuite, ce sera la relation parentale du père et de la mère. Et ensuite, peut-être en premier lieu l'amour de la mère, et puis après la relation du père et de la mère. Ça dépend des cas. Et ensuite, c'est lui. Mais il ne se découvre pas du tout en premier lieu. Alors, à quel moment se fait la connaissance du corps ? Ce singulier tout à fait particulier qui est mon corps. Je ne sais pas, mais sûrement que c'est très important pour le jugement d'existence. Pour discerner un intermédiaire entre ce que je suis et l'autre. Puisque le corps est ce que je suis, mais d'une manière toute particulière, c'est l'extension de ce que je suis. Et c'est en même temps quelque chose qui est mien, qui n'est pas totalement autre. Et donc, ça me permet de discerner dans cette connaissance quelque chose qui est autre. Ceci est, je suis. Et là, je crois que c'est très important de distinguer le je suis de l'autre. C'est peut-être, vous voyez, la distinction première, alors, encore une fois, très difficile à préciser. Parce que ce n'est pas un ordre absolu. On est dans le devenir. Dans le devenir, il n'y a pas de premier. Il n'y a pas de terme. Donc c'est chaotique. Tout devenir est chaotique. Puisque tout devenir commence par la puissance. Et la puissance demande d'être déterminée. Mais elle ne demande pas, la puissance de l'intelligence ne demande pas d'être déterminée dans un seul sens. Et donc elle peut être déterminée par plusieurs sens. Puisque l'intelligence est substantiellement en puissance. Donc radicalement en puissance. C'est ce que Aristote disait tabula rasa. C'est quelque chose qui est radicalement en puissance. Et donc c'est radicalement en puissance, je ne peux pas déterminer ce qui, oui, à part primo cadit in intellectus, mais intellectus, ce qui est. C'est tout. Je ne peux pas préciser que c'est nécessairement quelque chose qui est autre que moi, ou c'est quelque chose qui est moi. Je ne peux pas préciser si c'est mon intériorité ou mon corps. Je crois que là, il reste est-ce quelque chose qui n'est pas déterminé? Réfléchissez là-dessus, parce que c'est intéressant ça. Pour relativiser toutes les manières dont les psychologues voient les âges, il y a quelque chose de vrai, mais c'est relatif. Et je ne peux pas savoir avec exactitude à quel moment mon intelligence s'est éveillée. L'âge de raison. Hein? L'âge de raison, ça implique qu'on est suffisamment capable pour dire c'est ceci, ceci est, ceci n'est pas. Donc là, il y a quand même une prise de possession de quelque chose de très radical qui est important à souligner.